Aujourd'hui, je vais vous lire un passage du livre des Actes des Apôtres. Alors, c'est un passage que nous connaissons car il est un peu rigolo parce que c'est l'apôtre Paul qui prêche si longtemps qu'il y a un jeune qui s'endort et puis qui tombe par la fenêtre en fait. Alors, heureusement, bien sûr, l'histoire se termine bien, il est ressuscité. Alors, est-ce que c'est simplement une histoire un peu rigolote pour se moquer des prédicateurs interminables ? Un peu, oui, je pense qu'il y a un peu une ironie dans ce texte des Actes des Apôtres. Est-ce que c'est une belle histoire pour nous raconter des légendes ? Non, je crois que le texte est bien plus profond que cela et qu'au creux de ce texte, nous pouvons vraiment trouver une parole pour nous aujourd'hui. Donc c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les autres et il prolongea son discours jusqu'au milieu de la nuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Et un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait et prolongeait encore cet entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit, il se pencha sur lui, il le prit dans ses bras et dit « Qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. » Quand Paul fut remonté, il rompit le pain, il mangea et il parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube. Après quoi, il partit. Alors on ramena vivant le jeune homme et ce fut une très grande consolation pour eux tous. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter maintenant le cantique 204. Cantique, bon, à l'honneur d'Héloïse, bien sûr, une bénédiction pour elle qui vient de recevoir le baptême. Alors dans ce cantique, il y a toujours une parole qui me gêne un peu, « Soumets leur âme à l'Évangile ». Il ne s'agit pas d'écraser, si vous voulez, notre âme avec le poids de l'Évangile, mais que l'amour, que l'Évangile, que la grâce de Dieu soit au-dessus de toute notre vie et que ce soit ça qui l'inspire. Donc le cantique 204, « Seigneur, dirige et sanctifie » les deux strophes de ce cantique de prière.
Oh.
Oui, Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies et de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix, joie, dynamisme dans nos cœurs. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles, les hésitations, les peurs. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. Je pense que pour une histoire de miracle et même de résurrection, Luc, qui est l'auteur de ce livre des Actes, aurait vraiment pu mieux faire. Et vous, je suis sûr, catéchumène, vous auriez facilement mieux fait, j'en suis certain, si on vous avait demandé de nous raconter une histoire où des apôtres de Jésus-Christ ressuscitent quelqu'un. Qu'est-ce que nous dit le texte sur les actions de l'apôtre Paul ? Nous aurions mis des actes plus spectaculaires. Par exemple, Paul aurait pu mettre les mains sur le cœur, sur la tête, sur les yeux de cet enfant mort, et puis il aurait pu fermer les yeux, lever ses yeux fermés vers le ciel et prier Dieu. Voilà, ça c'est bien, les yeux tournés vers le ciel, ça fait sérieux, ça montre bien la foi de l'apôtre, ça aurait été pas mal. Et puis ensuite, il n'y aurait plus qu'à raconter le jeune homme qui se lève et puis qui loue Dieu en remerciant l'apôtre pour ses bons services. Mais dans notre texte de la Bible, rien de tout ça. En fait, quand on regarde ce récit est tout à fait étrange. Il est bizarre que l'apôtre Paul descende pour voir le garçon tomber dans la cour, bon ça c'est le moindre des choses, mais qu'après l'avoir vu, il remonte comme si de rien n'était, il remonte dans la salle de réunion au troisième étage, il commence par prendre un bon casse-croûte, et puis il se remet encore à discuter de plus belle avec l'assemblée. Il est bizarre que ce soit seulement à la fin de l'histoire, quand l'apôtre Paul s'en va, que le texte de Luc nous dise que le jeune homme est alors ramené vivant, comme si Paul n'y était pour rien, et même comme si c'était la présence de Paul qui l'empêchait de vivre. Mais bien souvent, le texte biblique n'est pas bizarre pour rien, et les bizarreries sont comme des coups de trompette pour nous réveiller, pour réveiller notre intelligence, notre réflexion, et pour empêcher les gens de sombrer dans le sommeil, au lieu de l'endormir avec de pieuses légendes comme on en a avec les histoires de saints. Donc partons de ces bizarreries qui sont dans le texte biblique, car c'est souvent des indices intéressants. La résurrection n'arrive donc qu'au dernier verset de l'histoire, au verset 12. Alors pour voir ce qui a été une porte ouverte sur la vie pour cet Eutychus qui a eu un accident, eh bien cherchons ce qui est raconté juste avant ce moment où on nous dit qu'il est ramené à la vie et que tout le monde se réjouit grandement. Alors si on regarde, eh bien, on se rend compte que le texte n'a pas été écrit n'importe comment, car juste avant le verset 12, il y a les versets 7 à 11, ça je vous aurais pu deviner, mais qui sont en fait, qui forment un ensemble bien construit. En effet, le verset 7 comprend des éléments qui se retrouvent exactement au verset 11, plus ou moins à l'inverse. Nous avons au début des ténèbres les plus noires du milieu de la nuit, et à la fin, nous avons l'aube avec le jour qui arrive. Nous avons au début Paul qui se met à discuter, et à la fin Paul qui arrête, enfin, j'allais dire, de discuter. Nous avons au début un solide casse-croûte, et à la fin, nous avons encore un solide casse-croûte. Et nous avons au début le rassemblement en hauteur dans la chambre haute, et l'annonce que Paul va partir, et à la fin, nous voyons Paul redescendre et partir effectivement. Et donc l'accent est mis ici sur ces cinq points essentiels que l'on retrouve des deux côtés, cinq éléments qui décrivent en fait le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ, selon une symbolique biblique très fréquente. Le don de la lumière est un don que Dieu nous donne et nous permet d'avancer en voyant clair, librement, avec nos propres yeux, sans que personne ait besoin de nous dire « fais ceci, ne fais pas cela », parce qu'alors c'est en nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre intelligence, que nous voyons où mènent les sentiers et que nous pouvons alors tracer notre propre route librement. Le don de la parole de Dieu nous crée et nous rend dignes, capables de créer à notre tour. Dieu nous donne le pain de la vie éternelle en Christ, et c'est Dieu qui nous rassemble en un corps où nous avons notre place, mais aussi notre liberté, capacité de partir tout en restant en communion avec les autres et bien coordonnés les uns ensemble. Et c'est Dieu qui nous élève, qui nous grandit comme un arbre qui porte ses propres fruits en son propre temps. Et effectivement, c'est cela qui arrive à ces personnes, pas seulement à Eutychus, mais à tout ce groupe à la fin de l'histoire. En effet, au verset 12, ce n'est pas simplement Eutychus qui revient vivant. Mais tous, nous dit le texte, sont consolés au-delà de toute mesure. Alors cela peut sembler bien banal, consoler que Eutychus soit bien vivant, mais non. Parce que dans le grec de la Bible, eh bien, se consoler, c'est le verbe parakaleo, vous l'auriez deviné, comme paraclet, c'est-à-dire c'est le verbe du Saint-Esprit qui est donné pour nous faire vivre, comme à la Pentecôte, si vous voulez. Ce verbe consoler, c'est ce qui a donné le nom à Noé, c'est-à-dire à cette humanité sauvée par Dieu. C'est ce verbe qui est le verbe du prophète Ésaïe, consoler, consoler mon peuple. Et donc ce récit, eh bien un récit qui nous parle d'une nouvelle époque de notre vie, d'une résurrection, d'un temps de vie nouvelle par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que ce récit s'ouvre en disant que ce récit se passe le premier jour de la semaine. C'est vraiment un détail insignifiant, ça pourrait être le lundi, le mardi, le jeudi. Pourquoi le dimanche ? Ben, c'est voilà. Parce que c'est dans la nuit de ce premier jour de résurrection, finalement, que cet événement se situe. Ou en tout cas, d'une petite touche de résurrection que nous pouvons vivre en recevant des étincelles de ces cinq dons de Dieu qui sont décrits ici, pour ces dons de Dieu qui nous rendent plus vivants, qui nous rendent plus nous-mêmes, enfin plus nous-mêmes et plus vivants. Mais alors si l'essentiel c'est cette lumière de Dieu, à quoi sert cette pauvre lumière matérielle que sont les lampes dont parle ce texte ? À quoi sert, puisque l'essentiel c'est la parole de Dieu, à quoi sert ces débats interminables qu'a endormir ce pauvre garçon ? À quoi ça sert de se rassembler pour rompre le pain, si le vrai pain c'est le pain du Christ vivant qui nous est donné spirituellement ? Est-ce que c'est important pour s'élever de monter au troisième étage ? Nous-mêmes avons monté que 4 ou 5 marches pour être ici. Peut-être par prudence, de peur que je sois trop ennuyeux, que vous vous endormiez, donc il vaut mieux être qu'à quelques marches de haut, c'est plus prudent quand même. Alors est-ce qu'on serait plus proche du ciel au troisième étage que si l'on est au rez-de-chaussette ? Je ne crois pas. Ces efforts humains, c'est des reflets des dons de Dieu. C'est une façon de se préparer à s'ouvrir à ces dons de Dieu. Et finalement, ces éléments humains qui sont ici décrits, ça évoque ce qu'apporte l'Église, finalement. Ils nous préparent, ils nous permettent d'attendre et d'espérer les dons véritables. Ces éléments, finalement, sont un petit peu comme ces canards en bois que, dans le temps, les chasseurs mettaient sur les étangs, vous savez, pour attirer les canards sauvages. Et finalement, l'Église, c'est cela, c'est comme un canard en bois, un truc fabriqué de nos petites mains, peint un peu maladroitement, bien moins beau qu'un vrai canard vivant, mais c'est utile pour s'ouvrir à la vraie vie, pour attendre et pour saisir enfin la vraie vie que Dieu nous donne. Alors bien sûr, cette image est imparfaite parce que nos actes religieux ne sont pas là pour attirer Dieu, mais pour nous ouvrir à Dieu. Mais bon, c'est les limites de toute image. C'était juste pour remettre à sa place finalement l'Église comme utile, mais comme n'étant pas l'essentiel. Alors au début de ce texte, « Tout ne va pas si bien car ils sont au plus profond des ténèbres », nous dit le texte, « au plus profond de la nuit ». Alors bien sûr, il y a quand même du positif. C'est cette espérance de Dieu qui les a réunis et cette solidarité humaine qui font qu'ils se sont un peu rassemblés et qu'ils se tiennent un peu les coudes. Bon, un peu limite quand même leur solidarité car ils ne se rendent même pas compte que Eutychus est en train de somnoler, qu'il s'est assis dangereusement sur le bord de la fenêtre, ce qui est bien stupide. Mais bon, quand même, ils ont une espérance commune, ils se sont rassemblés, ils creusent, ils essayent. Alors en fait, rassembler, ce n'est pas tout à fait le verbe qui est ici dans le grec de l'évangile, des actes des apôtres, mais c'est le verbe synago, comme synagogue en fait. Littéralement, ils font un bout de chemin ensemble, un bout de route ensemble. Ça ne veut pas dire que nous devions rester tout le temps scotchés ensemble. Il viendra ensuite le temps pour chacun, comme pour l'apôtre Paul, le temps de partir et suivre son propre chemin pour accomplir sa propre mission. Mais la liberté, même alors, sera encore une vraie communion, un vrai cheminement ensemble. Alors ce rassemblement est une espérance, comme notre espérance ce matin pour ce rassemblement, oui. C'est une ouverture sur quelque chose qui est de l'ordre du plus grand que chacun de nous, plus grand même que nous tous ensemble. Ce que nous attendons, c'est un miracle dans notre vie, celui d'une vie supérieure qui ne peut venir que d'en haut, de plus grand que l'humain, de Dieu, quoi. Alors le but de ce rassemblement, nous dit le texte, c'est de rompre et de manger le pain. Alors ça évoque un solide casse-croûte, c'est vrai, qu'ils vont prendre, qui donne de la force au corps, mais c'est aussi, bien sûr, une mémoire du Christ dont la vie a été rompue. Et c'est une méditation, c'est une volonté de communion avec lui, une volonté de se nourrir, non seulement de ses paroles, mais de sa vie tout entière, et qu'ainsi, ensemble, nous fassions corps. Que ce corps puisse être réuni. Chacun est venu avec sa lampe et c'est un peu comme une petite Pentecôte qui est racontée plus haut dans la Bible. Mais la vraie Pentecôte, c'est avec des flammes de l'Esprit de Dieu. Là, ce sont des lampes matérielles qu'ils ont. C'est peu de choses, bien sûr, par rapport aux flammes de l'Esprit Saint qui éclaireraient chacun de l'intérieur. Mais quand même, il y a là de nombreuses lampes. Et ces lampes leur permettent d'espérer, d'attendre. Ces lampes qui éclairent la pièce, elles évoquent la pluralité des points de vue. Et effectivement, à la Pentecôte, il y a autant de flammes que de personnes. Ces lampes, c'est des signes de l'espérance de la bénédiction de Dieu donnée individuellement sur chacun. Et pour attendre la parole de Dieu, il y a ce dialogue avec la parole de l'apôtre Paul. En effet, le verbe utilisé ici, ce n'est pas celui seulement du discours de l'apôtre Paul, mais plutôt celui du dialogue entre Paul et chacun des participants de cette réunion. Là encore, je crois que c'est un des rôles de l'Église que d'être ce lieu de la parole et du dialogue, du débat entre nous. Alors bien sûr, au cours du culte, la parole publique est difficile et ce serait... Il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas débattre volontiers. Donc, Il y a des moments de dialogue dans l'Église. Il peut y avoir des études bibliques, des groupes de catéchisme, de lycéens, d'étudiants. Mais au cours du culte, c'est ce dialogue, un autre dialogue, un dialogue intérieur, essentiel, qui est mis en valeur. Et c'est peut-être pour ça, finalement, que le culte, bizarrement, est l'activité la plus, qui a le plus de succès dans l'Église, en fait. Car ce dialogue intérieur est essentiel, un dialogue entre les textes et la conscience de chacune et de chacun. Et en public, finalement, ça trouble un peu ce dialogue intérieur. Il y a une foi, un idéal, les promesses de Dieu, les témoignages qui sont dans la Bible, qui sont exprimés dans la lecture, et puis dans la prédication, dans un certain sens. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est de faire un dialogue entre ces idées qui sont exprimées et de faire un dialogue avec chacun, sa propre vie, sa propre sensibilité. Et ça, personne ne peut le faire sauf dans le secret intérieur de nos cœurs. Ces lumières, ces dialogues que nous avons entre nous, finalement, ces paroles, ça peut être excellent quand il nous prépare à recevoir la lumière et la parole de Dieu, c'est-à-dire une impulsion divine qui créera à chaque fois un peu plus à l'intérieur de nous-mêmes une vie consciente, un cœur qui aime, qui nourrira notre dynamique de vie, qui nourrira notre âme, qui libérera notre personnalité, qui autorisera aussi notre propre regard sur la vie et sur le monde. Mais tout d'un coup, si nous prenons notre lumière pour celle de Dieu, ou la lumière de l'Église pour la lumière de Dieu, si nous prenons nos paroles ou les paroles de l'Église pour la parole et la parole de Dieu, si nous confondons ainsi les choses, au lieu que ces paroles, ces lumières et ce pain de l'Église soient une préparation, une humble préparation, alors ces paroles, ce pain et ces lumières de l'Église viennent nous endormir au lieu de nous réveiller. Elles viennent fermer notre avenir au lieu de l'ouvrir à la grâce de Dieu. Et ces hommes et ces femmes qui se sont rassemblés dans l'étage supérieur d'une maison de 3 étages, elles sont à l'écoute, finalement, de cette quelque chose qui vient de Dieu et qui est supérieur. Alors, pourquoi 3 étages ? À mon avis, c'est une évocation de l'arche de Noé, qui a 3 étages aussi. L'Église est comme une arche. Elle nous élève juste un peu au-dessus de la marée, juste pour attendre et pour accueillir l'alliance de Dieu. Après, comme Paul, l'Église doit s'effacer. Mais Eutychus, il tombe de l'arche par la fenêtre. Eutychus, c'est une part de chacun d'entre nous, c'est une part de notre Église, c'est une part de notre société, une part de nous-mêmes, bien sûr, est dans une bonne dynamique. Une part de nous-mêmes espère, s'intéresse, cherche, va vers les autres, est dans une dynamique de Dieu. Mais une part de nous-mêmes est faible et s'endort. Une part de nous-mêmes meurt de se prendre pour Dieu et fait n'importe quoi. Une part de nous-mêmes tombe par la fenêtre et s'endort finalement, ne suit pas cet effort que nous voudrions faire pour nous ouvrir au salut de Dieu. Alors c'est normal qu'il y ait une part d'Eutychus en nous, et c'est même sain. Car si notre chambre haute, si notre église, si notre foi, si notre réflexion était sans fenêtre, notre chambre haute, notre église sentirait un peu le terrier de marmotte à la fin de l'hiver. Et c'est normal qu'une partie de notre être ne suive pas, finalement, soit encore un peu en chaos, soit encore un peu endormi, car nous sommes tous un être en genèse, et c'est bien ainsi. Nous ne sommes pas Dieu, et c'est au point d'équilibre, finalement, de la fenêtre de l'extérieur et de l'intérieur que se trouve le front de construction de notre être, de l'être que nous serons demain. Alors parfois, nous régressons un peu comme Eutychus et nous glissons dans la chute. Parfois, une personne que nous voyons, que nous aimons, vacille, va mal. Et cette communauté de la chambre haute de Paul n'est pas une communauté idéale, sinon elle aurait retenu Eutychus en train de tomber. Alors, nous sommes ici, oui, dans cet entre-deux, nous sommes chacun de nous, cette communauté et cet Eutychus qui glissons. Il n'y a pas un mot ici pour dire qu'Eutychus est nul, ni que c'est bien fait pour lui qu'il avait qu'à faire attention. ni pour menacer les autres. Attention, voilà ce qui vous va vous arriver si vous ne suivez pas bien. Au contraire, comme Paul, nous pouvons suspendre même ce qu'il y a de plus noble dans notre démarche pour aller vers celui qui est tombé au plus bas, dans les ténèbres du dehors, en dehors de l'Église, en dehors du bien, même celui-là qui est perdu finalement, et se rendre compte qu'en lui, il y a une âme, qu'il y a encore une vie, qu'il y a encore quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est pourquoi notre culte comprend toujours une confession du péché au début du culte finalement, qui n'est pas une façon de nous culpabiliser, mais une façon d'espérer, de se placer là, au front de genèse, de construction de notre être. Mais pourquoi est-ce que Paul laisse là Eutychus en plan, après avoir noté qu'il y a une âme en lui, et que Paul remonte pour casser la croûte et pour parler de plus belle jusqu'à l'aube? Il est bien entendu hors de question de voir dans ce texte un encouragement à nous désintéresser du maillon faible de notre communauté, de notre famille, pour monter noblement dans notre tour d'ivoire. Tout l'Évangile dit le contraire, à commencer par ce texte essentiel qu'est la parabole de Jésus sur le berger qui, au contraire, laisse les 99 brebis justes pour aller chercher la seule qui est perdue. Et donc, ce texte, cette histoire de Paul qui abandonne Eutychus pour monter dans la chambre haute, c'est bien la preuve que ce récit de la mort et de la résurrection d'Eutychus est à prendre comme parlant d'un Eutychus qui est notre faiblesse à chacun d'entre nous. Car il peut y avoir un temps pour travailler sur nos manques et nos défauts, il peut y avoir un temps pour élever le débat dans la prière et dans une réflexion biblique. Si nous sommes colériques, par exemple, ou envieux, ou étourdis, ou manquant de foi, ou aigris, ou broyant du noir, je ne sais pas, et que ces faiblesses sont notre Eutychus, peut-être, après être descendu comme Paul, après avoir saisi, pris dans les bras, reconnu finalement que même dans nos travers, il y a quelque chose qui est de l'ordre de nous-mêmes, qui pourrait être ressuscité. Il est possible que ça soit plus urgent d'arrêter d'être trop concentré sur notre problème et de remonter, de reprendre un peu de hauteur pour travailler à ce que nous pouvons faire pour accueillir cette vie qui est plus grande que nous et qui vient de Dieu. Un travail sur soi pour nous ouvrir à une croissance qui nous dépasse, une croissance divine. Et c'est ce que fait Paul ici. Il ne s'acharne pas dans les massages cardiaques pour réanimer le garçon. Il reprend de plus belle cette espérance de Dieu, ce travail d'ouverture avec des moyens humains pour s'ouvrir à ce qui vient de plus grand que l'humain, de Dieu. Oui, Eutychus, dont le nom veut dire « j'ai de la chance », eh bien ce monsieur « j'ai de la chance », sa chance, c'est Dieu. Et quelques vrais amis peut-être. Et puis la chance d'avoir ces textes passionnants de la Bible qui peuvent nous aider vraiment à nous ouvrir et à recevoir le salut qui vient de Dieu. Amen.